Nous sommes Daftzadik Gimel Amud Aleph, Sanhedrin Daftzadik Gimel Amud Aleph. Le quatrième linus est large. Le Rabbanan, Leheicha Azlu. Les Chachamim, où sont-ils partis? C'est quoi la question? Et les Chachamim, où ils sont partis? Quels Chachamim? Hananiah, Mishael, Azaria, après qu'ils sont sortis vivants de la fournaise, ils ne figurent plus dans le livre de Daniel. Au début, on nous raconte Daniel Hananel Vazaria, qui était dans l'école Sciences Po. Après, Daniel s'est fait nommer premier ministre, les autres super ministres. Et après, on nous raconte le miracle du four qu'ils ont sorti vivant. Et après, ils ne figurent plus. Alors, la Gemara pose la question, mais où ils sont partis? Rabbanan, Heicha Azlu. Les Chachamim, après qu'ils ont sorti, pourquoi on ne parle plus d'eux dans les livres de Daniel? Ils sont partis où? Amarav, Rav, il dit, Ba'ain Hara metu. Ils sont morts par la Ain Hara. Ça veut dire, tous les gens, ils regardaient sur eux. Comment ça se fait que Dieu leur a fait un tel miracle? Alors, ils sont morts par Ain Hara. Un peu tragique. Ils ont survécu un four et ils n'ont pas survécu la Ain Hara. Une seconde, attendez, une seconde, je vais... Excusez-moi. Alors, ils sont morts, Ba'aïnara, ça veut dire qu'ils ont survécu un tel miracle du four et ils n'ont pas survécu la. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Enfin, Kiddush Hashem. Après leur vie privée, que ça n'a pas continué, c'est un détail de l'histoire. Mais le Kiddush Hashem a été fait. Mais le Shrout, ils avaient. Mort après, d'accord, ça va, c'est pas tragique, on dirait. Ou peut-être, Aïnara, Metu, peut-être le mot Metu ne veut pas dire mort. Le Metu veut dire, ils étaient dégradés. La Aïnara a fait que Nebuchadnezzar leur a enlevé la place. Ils avaient perdu leur prestige. La Aïnara a fait qu'ils ont perdu leur prestige, peut-être, pas vraiment mort. Le Shmuel Amar, Shmuel dit, Berok Tavou, ils se sont noyés dans le crachat. Dans quel crachat? Ça veut dire, les goyim, ils ont craché devant eux. Pourquoi ils ont craché devant eux? Parce que Rashi raconte que les goyim, ils ont dit, mais c'est phénoménal. Vous, les juifs, vous avez un Dieu qui peut sauver des gens du feu. On les met dans le feu et ils sortent vivants. Mais c'est merveilleux, vous, les juifs. Alors, comment ça se fait que tous les vôtres se sont prosternés à l'idole? Donc, ils ont insulté les rabbinim, ceux qui ne se sont pas prosternés. C'est une histoire de fou, une histoire de perversion. Ils étaient fâchés avec le peuple juif, les goyim, pas fâchés. Ils ont reproché au peuple juif, pourquoi vous êtes prosternés devant l'idole? Donc, devant les trois chachamim, qu'eux, ils se sont laissés tuer, ils ont craché devant eux, et ce crachat est devenu un lac. Et ils se sont noyés dans ce lac. Évidemment, il ne faut pas prendre ça à la lettre, ça n'a pas de sens. Et crachat, ça ne fait pas un lac, on se noie dedans, évidemment. Mais ça veut dire leur prestige est tombé, ils se sont noyés, ici c'est clair. Quand on dit « berok tavou », c'est la même chose que « bainara metu ». Metu, ça veut dire « disgracié ». Se sont noyés dans le roc. Des gens, ils étaient, les goyim étaient tellement fâchés, ils étaient tellement méprisés que le prestige est tombé. Mais la question, elle est, pourquoi ils crachaient? Pourquoi les goyim crachaient devant les trois rabbins? Parce que leur peuple se pas prosterné. Parce que le peuple s'est vu prosterné. Le peuple s'est prosterné et les goyim étaient fâchés, vous n'aurez pas dû vous prosterner. Alors donc, il faut se faire. Pour se cracher devant le peuple, pas devant ceux qu'ils étaient prêts à mourir. Mais là, c'est la perversion. On accuse les chefs des Juifs, pourquoi vous n'avez pas élevé les vôtres mieux? C'est terrible cette Gemara. Les Chachamim doivent élever le peuple juif. Et si le peuple juif se comporte mal, à la fin, les Goïm les accusent. Ils accusent les Chachamim, pourquoi vous n'avez pas élevé les vôtres bien? Alors, Borok Tabou. Rabbi Yochanan Amar, Al ou l'Eretz Israël. Ils ont quitté la Babylonie. Venasu Nashim, ils se sont mariés avec des femmes. Veolid ou Banim ou Banot, ils avaient des enfants. En vérité, on n'est pas obligé de dire qu'il y a ici Machloket. Peut-être tous les trois choses sont vraies. Ils ont reçu Aïnara et on l'a craché devant eux. Et c'est ça qui a provoqué qu'il y avait une disgrâce. Alors, ils ont décidé, ça va, on ne veut plus de nous au gouvernement, d'accord. Ils ont monté en Eretz Israël, ils se sont mariés. Ketanaï, la Gemara nous dit, ça dépend aussi, cette machloket amorim était déjà racontée à l'époque de Tanaïm. Rabbi Elazar Omer Ba'Aïnara Metu. Rabbi Yeshua Omer Barok Tavu, ils se sont noyés dans le crachat. Machachachim Rim, Alou l'Eretz Israël, Menasu Nashim, Olido Panim Ubanot. Shneemar, car il est dit dans le texte, Shmana Yoshua HaKohen Gadol. Il y a un monsieur qui s'appelle Yoshua le Kohen Gadol. Lui était le premier Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash. Et c'était le petit-fils de l'ancien Kohen Gadol, de Sraya. Sraya était le père de Ezra et le père de Yoshua. Et Yoshua était le neveu donc de Ezra. Et lui est devenu le Kohen Gadol. Et le texte, il dit que le Malach, il a dit à Yeshua Kohen Gadol, Ata, toi, Verecha, et tes copains, à Yoshim le Fanecha, qui se trouve devant toi, ou à Yerushalayim, qui anche Mofetema, parce que ces trois copains, vous êtes des hommes de Mofet. Eizem Anashim, Shenaselhem Mofet. Qui sont les hommes sur lesquels le Tanakh nous raconte à cette époque qu'un miracle est arrivé, et vers Omer, tu dois dire, Zechanan, Michel, Bazaria. Et donc, eux, ils étaient à côté de Yeshua, Kohen Agadol. Mais Daniel, Heichan, Azal. Maintenant, la question, elle est, Daniel, où il était pendant qu'on a jeté Hanan, Michel, Bazaria dans le feu? Daniel n'était pas jeté dans le feu, parce qu'il n'était pas présent. Pourquoi il n'était pas présent? Ils auraient dû aussi être Daniel, Hanush, Lazar. Ils auraient dû être tous ensemble. Daniel n'était pas présent. Pourquoi? Le Michrenahar Rabbe Betveria. Il était parti. Pour quelle raison il était parti? Pour creuser Nahar Rabbe, un grand fleuve, Betveria à Tibériade. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel, il est maintenant un creuseur des fleuves à Tibériade. Tibériade, pourquoi Tibériade, il a besoin d'un fleuve? Mais Tibériade, c'est à côté d'un lac, le lac de Kinneret. Il y a beaucoup d'eau à boire là-bas. Pourquoi on a besoin d'un fleuve? Pour se laver, pour boire. Il y a la Kinneret à côté. Kinneret, c'est un bon mikvé. On peut boire, on peut se laver, pourquoi on a besoin d'un fleuve? Et quel est le grand fleuve à Tibériade? Bien sûr, la Gemara, c'est une allusion. Un grand fleuve, c'est une allusion, c'est-à-dire qu'il a fait une yeshiva. Daniel, il est parti ce moment-là pour inaugurer une yeshiva à Tibériade. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi à Tibériade? Qu'est-ce qu'il y a à Tibériade? Il y avait une grande yeshiva à Tibériade à cette époque. La yeshiva connue à Tibériade, c'est la yeshiva de Rabbi, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était 5 siècles après cette histoire. Daniel, il a mis la première pierre de la yeshiva de Rabbi à Tibériade. Pourquoi Daniel, il a fait ça? Daniel, il y a un secret dedans, je ne sais pas. Il devait faire une yeshiva à Tibériade. Mais où cette yeshiva était? À l'époque du deuxième Beth Amikdash, elle a existé aussi, cette yeshiva. Il a créé une yeshiva pour après, avec une minuterie. Je ne sais pas. Shmuel Amar, la touye bizre de aspasta. C'est que Nebuchadnezzar, il a envoyé, tu vas nous importer des animaux, des nourritures pour animal. Aspasta. Aspasta, c'est du foin ou du luzerne. Il y en a qui disent c'est du luzerne ou du foin quand on a mangé aux animaux. Et Nebuchadnezzar, il avait besoin d'importation. Il a envoyé Daniel faire une importation de ces nourritures pour animal. Quel est le sens de cette Gemara? C'est une Gemara codée. Rabbi Yochanan Amar, la douille chazira d'Alexandre chez Mitzrayim. En Égypte, il y avait un élevage de COCHON. Et ils étaient costauds. En Égypte, c'est connu. C'était le meilleur CO. Alors, en Babylonie, Nebuchadnezzar, il voulait faire un élevage en Babylonie aussi. Donc, il a dit à Daniel, toi, tu es le premier ministre, tu pars en Égypte et tu achètes et tu les amènes en Babylonie parce que je voudrais aussi faire une production de Hazir en Babylonie. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Daniel. Quel rapport avec cette histoire? Il y a une histoire codée ici, je ne sais pas. La Gemara demande Eini. Mais comment c'est possible d'envoyer Daniel en Égypte pour apporter des Hazirim? Vatani, mais nous avons vu Toudous Arofé, Amar. Toudous, le médecin, il a dit En parav Hazira yotza me Alexandre shel Mitzrayim, shen chotrim ha'em shela, bishvil shelo telet. Les Égyptiens, ils voulaient garder le monopole pour les animaux qui étaient spécialement bien. Alors, les chevaux, les vaches en Égypte étaient super costauds. Les Hazirim aussi, c'est une race très spéciale. Et ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre dans le monde fasse un élevage de cette même race. Donc, ils ont interdit d'exporter. Ils étaient d'accord d'exporter si on a enlevé l'utérus du Hazir. Comme ça, il n'aura pas d'enfant. Mais avec l'utérus, c'est-à-dire qu'ils savaient faire l'opération d'enlever l'utérus, c'était une opération connue. Et ça, ils étaient d'accord. Mais sinon, ils n'étaient pas d'accord. Donc, à quoi ça sert Nebuchadnezzar d'envoyer Daniel, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Les Égyptiens ne vont jamais laisser partir. Zoutre aite blodatayu. En vérité, il a importé les petits blodatayu sans qu'ils ont remarqué. Daniel devait organiser une exportation des petits chazirim qui ne font pas du bruit, qu'on peut cacher, je ne sais pas, dans des camions. Il a exporté, il a amené en Babylonie. Ça, c'est la traduction de la Gemara. Mais quel est le sens? Je ne sais pas. Tanu Rabbanan. La Gemara continue. Shlosha hayu ba'ota eitza. Il y avait trois qui étaient dans ce conseil d'éloigner Daniel pendant l'histoire qu'on a jeté les trois chachamim dans la fournaise. La raison pourquoi Daniel n'était pas présent, il y avait trois étaient dans ce conseil. Hakadosh Baruch Hu, premier c'est Hakadosh Baruch Hu, lui était intéressé que Daniel ne sera pas prison. Nebuchadnezzar, Daniel lui-même, Nebuchadnezzar. Tous les trois, ils pensaient la même chose. Hakadosh Baruch Hu Amar, Hakadosh Baruch Hu il dit, Neizel Daniel Meracha, je ne veux pas que Daniel soit prison. L'Olim Rubishchut et Itnatzul, pour pas que les gens ils disent que le schut de Daniel a fait que Hanani Mishael et Zari ont survécu. Akibouk voulait montrer que Hanani Mishael et Zari étaient des tzadikim indépendamment de Daniel. Mais si jamais Daniel était là-bas, il serait aussi jeté dans la fournaise. Donc, ils avaient été tac. Donc, peut-être les gens ils vont dire le schout de Daniel les a protégés. Donc, Akibouk, il était intéressé qu'il ne sera pas présent pour que les gens ils voient que Hanani Mishael et Zari eux-mêmes sont aussi des tzadikim. Mais Daniel a marre. Et Daniel, il a dit, moi, je vais me tirer d'ici. Moi, je ne vais pas être présent. De l'olekai, un billet, pour que ça ne se réalise pas sur moi. Psil Elohim tisrefun ba'esh. Un idole sera brûlé dans le feu. La Torah donne une mitzvah de brûler les idoles dans le feu. Ce n'est pas seulement une mitzvah, mais c'est aussi une prophétie. Tous les idoles, un jour, ils vont être brûlés dans le feu. Et donc, Daniel, il avait peur que lui sera considéré comme une idole, étant donné que Nebuchadnezzar se prosterne devant lui. Il appelait Dieu. Après l'histoire que Daniel il est sorti vivant avec le lion, non, ou après qu'il a interprété le rêve, je ne me rappelle plus l'histoire, est-ce que c'est après qu'il a interprété le rêve, Après qu'il est sorti du lion, il est sorti vivant du lion, alors Nebuchadnezzar, il s'est prosterné et il a dit, tu es mon Dieu. Donc Daniel, il a dit, lui m'appelle son Dieu, alors peut-être pour lui, je suis un Dieu, et comme tous les dieux, va être brûlé dans le feu, et maintenant il va me jeter dans le feu, peut-être je serai brûlé. Peut-être que je n'aurai pas assez de chouillottes pour sortir vivant. Alors, d'accord. Pour pas que si les lèvres disent font baisse, mais nous, Khanetzer Amar, nous, Khanetzer, il a dit, Yézil Daniel Mahacha, moi, je suis aussi intéressé que Daniel part. De l'Olemre, pour que les gens ne disent pas, Kalye l'Elohe Benoura, il a brûlé son Dieu dans le feu. Nous, Khanetzer aussi, il avait peur que Daniel sera brûlé. Mais si Daniel sera brûlé et lui, il a rendu Daniel Dieu, les gens ils vont dire, voilà, le Dieu de Nebuchadnezzar est brûlé dans le feu. Donc lui aussi, il était intéressé. Donc Nebuchadnezzar dit, Daniel, pars d'ici, je t'envoie faire une importation de Khazirim, ou tu vas partir à Tibériade, ou tu vas apporter la nourriture pour les animaux. Et Kitsour, il a dit, je te donne du congé un mois, deux mois, pour que tu ne seras pas présent pendant cet événement. D'où on sait que Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Car le passage qui dit Bedaïn, entre-temps, mal que Nebuchadnezzar n'a pas la pohi, il est tombé par terre, mais le Daniel s'agit. Et il s'est prosterné devant Daniel. Alors, la Gemara change le registre. Pour Amar Hashem, on va continuer avec la même histoire, mais de notre côté. Pour Amar Hashem, Tzvakot, et le cas Israël. El Achav ben Koloya. Alors, le prophète, le vrai prophète, il parle du destin des faux prophètes. Il y avait deux faux prophètes à l'époque du premier Beth Amikdash, à l'époque d'Irmiah Navi. Un, il s'appelait Achav ben Koloya. Un, il s'appelait Tzidkia ben Maaseya. Alors, le vrai prophète, il a dit, « Quoi marachem tzvakot et le Kaysrel ?» Comme ça, il dit Dieu des Juifs. El Achav ben Koloya concernant Achav, fils de Koloya, El Sitkia ben Maaseya, Hanibim lachem bishmi la shaker, qui vous font des prophéties en mon nom en shaker. C'est-à-dire, Yirmiya Navi l'a dit, malheureusement, vous ne faites pas teshuva, Nebuchadnezzar va venir, il va détruire le Beth Mikdash, il va vous faire exiler. Ces deux prophètes, ils ont dit, mais non, Yirmiya, c'est un menteur, il dit n'importe quoi. Le contraire, Yerushalayim va rester, Nebuchadnezzar ne va rien faire du mal. Même les ustensiles qui sont partis en Babylone vont revenir. Il n'y a rien à craindre. Alors, le passage qu'il dit, Yirmiya, il a dit, ces deux feux prophètes qui vous roulent, sachez, ces deux faux prophètes, ils vont être une klala, ils vont être une malédiction, c'est-à-dire, ils vont être une honte. Tous les juifs de Babylone, ils auront honte. Ce sera l'exemple type des voyous, des pervers. Qui se trouve à Babel, les morts. Les gens, ils vont dire, quand quelqu'un voudrait maudire l'autre, la pire des malédictions qui existent, que Dieu te rende comme à Tzidkia ou comme à Achav, asher kalam melech Babel vaesh. Que le roi de Babel a brûlé dans le feu. Kalam, il a grillé dans le feu. Asher sa femme l'onémar, elle a cher Kalam. C'est pas marqué, il les a brûlés. Marqué Kalam, il les a grillés. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, la mèche à San Kiklayot, il les a rendus comme des cacahuètes grillées, comme des grains de blé grillés. Il les a grillés dans le feu. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Alors, le verset dit, Yan Asher Asu Nevala Israël, parce que ces deux faux prophètes, ils ont fait une Nevala, une perversion dans le peuple juif. Vainafu et Nesheire Ehem. Ils ont fait l'adultère avec les femmes de leurs proches. Alors, quand ils étaient à Yerushalayim, quand ils voulaient faire l'adultère, ils parlaient en nom de Dieu. Ils disaient, Dieu nous a demandé qu'on fasse un péché avec vous. Ils ont embrouillé. Il y avait des femmes qui, on le prenait pour des prophètes, les voyous les prenaient pour des, les simples les prenaient pour des prophètes. Yirmiya, il a crié à ses défauts. Mais eux, ils partaient chez des femmes, elles ont dit, Dieu nous a demandé de faire un péché avec vous. Yirmiyah Navi a dit, vous allez voir, le roi Nebuchadnezzar, il va les griller dans le feu. Maï Avoud, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils sont partis en exil aussi avec Yirmiyah, avec tout le monde parti à Babel. Azul et Gabé Brat et Nebuchadnezzar. Alors, ils sont partis chez la fille de Nebuchadnezzar. Achav, Amarla, Achav, le prophète, pas le roi Achav, c'est Achav, le prophète, le faux prophète Achav ben Kolaya. Amarla, il a dit à la fille de Nebuchadnezzar, Po Amar Hashem, ainsi dit le Dieu des Juifs, Ashmi el Tzidkia. Écoute la proposition de Tzidkia. Tzidkia a proposé de faire un Avira, et elle a dit, c'est vrai que Dieu a demandé ça. Alors, Achav, il a dit, oui, Dieu m'a dit, il faut écouter ce que Tzidkia a dit. Mais Tzidkia Amar, et Tzidkia, il a dit, Ko Amar Hashem, ainsi dit Dieu, Hashmi el Achav. Écoute ce qu'Achav te propose. La proposition d'Achav, c'est une vraie proposition qui vient de Dieu. Azla Ba'amra Leila Avua, la fille, elle est partie chez son père. Tu sais, j'ai reçu une proposition de deux prophètes, deux rabbins juifs, qui me demande de faire l'adultère. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Amarla, Nebuchadnezzar, il a dit, Elokem, shel Elu, sonezima. Je sais que le Dieu des Juifs, il n'aime pas l'adultère. Alors, qui a tous les gabars, quand la prochaine fois ils viendront chez toi, Shadrino le gabai, tu vas les envoyer chez moi. Qui a tout, quand ils sont venus le gabas chez elle, Shadratino le gabai avoua, il a dit, mon père voudrait vous parler. Amar le hu, il leur a dit, Man Amar le chon, qui vous a dit que de proposer à ma fille un péché? Amrou, ils ont dit à Kadesh Baruch Hu. C'est à Kadesh Baruch Hu qui a demandé. Alors, Nebuchadnezzar dit, Bah, Hanani, Michel, Vazaria, Shaltinu, Bamrouli, Asur. Moi, j'ai consulté trois rabbins, Hanani, Michel, Vazaria. Je leur ai dit, est-ce que Dieu, les Juifs, il peut demander comme ça qu'on fait l'adultère? Amorli Assour, Hanan Mishal Bezaria, ils ont dit, non, ça n'existe pas, Dieu ne demande pas ça. Amroulei, alors les deux faux prophètes, ils ont dit, nous sommes aussi des prophètes comme ces trois. Les Didoulo Amar, les Didan Amar, eux, il ne leur a pas dit, à nous, il avait dit. D'accord, ces trois, ils pensent comme ça, mais Dieu nous a parlé, à nous, il a dit de lui faire ça. Amar le ou, alors Nebuchadnezzar lui dit, Ana, moi, ba'ina di if de kinhu. Moi, je voudrais vous tester. Yaïcha de bat kinhu, la chanani Michel Vazaria. J'ai déjà testé la fidélité, la religiosité de chanani Michel Vazaria. Ils se sont laissés jeter dans la fournaise, ils sont sortis vivants. C'est des tzadikim. Votre Dieu a témoigné sur eux, c'est des tzadikim. Alors, vous savez quoi, vous? Vous dites, vous êtes des prophètes comme eux? Très bien. Si vous êtes des prophètes comme eux, je vous jette dans la fournaise. Si vous êtes des tzadikim, votre Dieu va vous protéger. Amroulé, ils ont dit, alors ils avaient peur, parce qu'il va être jeté dedans, là, ça ne va pas faire mal. Amroulé, ils ont dit, Inutla tahaven, van antrei, eux sont trois et nous sommes deux. On sait trois tzadikim. Alors là, Dieu, il a pitié. Mais nous ne sommes que deux tzadikim, peut-être deux tzadikim, ça ne suffit pas le mérite. Amar lehu, Nebuchadnezzar leur a dit, Bachru lechon, mandebaitu ba'daichu. Choisissez-vous un tzadik, ce que vous voulez. Prenez un de vos tzadik. Et il rentre aussi dans le feu. Amrou, ils ont dit, Yoshua Kohen Gadol. Eux, ils ont dit, d'accord, apportez Yoshua Kohen Gadol. C'est vrai, ils ont pensé, l'été Yeshua, qui vient Yeshua, de Nafis Routé, il a beaucoup de mérite. Ou Magnalan, grâce à ses mérites, il va nous protéger. Lui, il ne va pas brûler, donc nous aussi, on va échapper. Alors, Artiou, ils ont amené Yeshua, Shadinhu. On les a jetés tous les trois dans le feu. Inhu Iklu, eux, les deux faux prophètes Iklu, ils se sont fait griller. Yeshua Kohen Gadol, Ichru Chemane. Seulement ses habits sont devenus noirs. Il a échappé, il n'a pas brûlé, mais les habits se sont noircis. Chez Nehemar, parce que le texte dit, Vayareini, c'est une haftara de Hanouka, Vayareini et Yeshua Kohen Gadol, Omed Ifne Malach Hashem, le prophète a dit, j'ai vu Yeshua le Kohen Gadol, Omed Ifne Malach, Uktiv le texte, il dit, Vayomar Hashem et la Satan, Dieu il a dit au Satan, Yigar Hashem Becha Satan, Alors, il est marqué Oud Mutsal Me'esh. Oud Mutsal Me'esh, c'est Oud, un morceau de bois, Mutsal, qui est sauvé, Me'esh. Et le prophète et le Malach, il a dit, enlevez les habits sales des Shua Kondel, des Shua Kohen Agadol, et habillez-le avec des beaux habits. C'est tout ça, c'est dans le rêve. Le prophète, il a vu comment le Malach, il a parlé, il faut changer les habits des Shua Kohen Agadol, il faut lui enlever les habits sales, il faut le mettre des habits propres. Alors, Amarlei, Yadan de Tzadik At, je sais que tu es tzadik. Et Nouchanetzer, il a demandé, toi, Yoshua, tu es un tzaddik. Et la maïta mahanan bachpour te nourrit. Comment ça se fait que le feu, quand même, il t'a touché un peu? Il t'a touché que tes habits sont devenus noirs. Mechani et Meshel Bezari, alors, Anebouklal, eux, ils ont sorti avec des habits propres. Le texte, il dit dans le Sefer Daniel, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de noirci, il n'y avait rien, les habits propres, comme le moment qu'ils sont rentrés. Et comment ça se fait que Yeshua à Cohen, tu es tzaddik? Comment ça se fait que le feu a quand même un peu brûlé tes habits? Amar, là, il a dit, Yeshua, il a répondu, ils étaient trois tzaddikim. Tous les trois, ils étaient tzaddikim. Donc, ça les a protégés entièrement. Mais moi, je ne suis qu'un. Les autres deux, c'était des voyous. Donc, mon route n'était pas si assez grand. Mais Abraham, il était seul, et quand même il était sauvé, il n'y avait même pas des habits noirs. Nebuchadnezzar, il s'est intéressé à l'histoire juive, il connaissait l'histoire d'Abraham. Abraham, ça fait beaucoup d'années avant, plus que 1000 ans, il connaissait l'histoire juive. Alors, comment on répond, avec Abraham, il n'y avait pas de voyous avec lui, il s'est fait jeter dans le four sans voyous. Alors là, sans route à protéger même ses habits. Alors donc, donc le feu n'avait pas le droit de faire du mal. Donc il est sorti impeccable. Mais après ici, comme moi, on me jetait moi, il y avait deux voyous avec moi, les deux faux prophètes. Donc Dieu, il avait permis au feu de brûler les deux. Et donc, comme le feu avait le droit de brûler les deux, ça a un peu brûlé aussi les habits de Yeshua. C'est ça le proverbe qui dit Trei Udeyeveiche. Quand il y a deux morceaux de bois qui sont complètement secs, Vechadretive, et un, il est fraîche, Ugdanyeveiche, l'irretive. Le bois qui est fraîche, il est aussi brûlé à cause des deux secs. C'est-à-dire, si tu prends un bois qui est fraîche dans le feu, il a du mal à attraper. Pourquoi? Parce qu'il est fraîche, il y a de l'humidité dedans. Mais si tu mets trois morceaux de bois et deux, ils sont secs, eux, ils vont s'enflammer. Et ces flammes, malheureusement, ils vont entraîner le troisième aussi. Donc, le feu qui a brûlé les deux faux prophètes, ça a fait causer un peu de mal sur lui aussi. Maïta Amia Anesh, pourquoi il était puni Yeshua à Kohen Agadol que ses habits étaient sales? Pourquoi lui était obligé de rentrer dans le feu et que ses habits se salissent? Pourquoi? Amarav Papa, Shayu Banav Nosim Nashim She'enen Hugonot Lekuna, parce que les enfants de Yeshua et Kohen Gadol étaient mariés avec des femmes samaritaines. C'est marqué là-bas dans le Passouk, il y avait des descendants de Yeshua Kohen Gadol qui étaient mariés avec des femmes, des divorcées et des samaritaines. C'est assur. Il ne les a pas empêchés. Et c'est pour ça lui aussi il a souffert un peu. Chez Neymar, le texte dit, Yeshua yalavush begadim tsoim. Yeshua était habillé avec des habits sales. Ça, c'est dans l'image vis-à-vis du ciel. Des habits sales. Bechidar que chez Yeshua les bosh begadim tsoim. Est-ce que Yeshua avait des habits sales? Elle m'a la mettu banav nosim nashim sheinehogot le kumna. Ses enfants se sont mariés avec des femmes interdites au Kohen. Velomi chabahen. Donc, ses habits sales, ça veut dire son comportement, il n'était pas assez. Qu'est-ce qu'on apprend de toute cette histoire? On apprend ici des choses phénoménales, que les faux prophètes, ils étaient des pervers. Pourquoi ils étaient des faux prophètes? Pour de l'honneur, pour de l'argent, ça rapporte de l'argent. Il y a d'autres histoires sur eux, l'Agma nous raconte, ils avaient un bureau de faux prophéties, et comment ils se sont donnés le prestige qu'ils sont prophètes, en trompant les gens. Comment faire? La Gemara nous apprend comment faire. Ils ont fait comme ça. Une femme enceinte, elle vient chez eux. Vient chez un des deux. Bonjour, monsieur, bonjour. Je suis enceinte. Est-ce que vous pouvez me dire si ce sera un garçon ou une fille? Alors, le faux prophète a dit, ce sera un garçon. Ah, elle était contente. Elle est sortie. Après qu'elle est sortie, le prophète, il a dit à son serviteur, cours derrière cette femme et dis-lui que ce sera une fille. En vérité, le prophète m'a dit, ce sera une fille. Mais il vous a dit, ce sera un garçon parce qu'il se dit, vous risquez d'être déçu s'il dit la vérité, ce sera une fille. Donc, il vous a dit que ce sera un garçon. Donc, vous êtes bon, vous le quittez avec bonne humeur. Mais en vérité, il m'a dit, en vérité, ce sera une fille. D'accord. Et la femme, elle est partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Il va naître quoi après? Ou un garçon, une fille? Enfin, un garçon, une fille, étant le prophète, on ne connaît rien. Alors, si c'est un garçon, il se dit, oui, c'est vrai. Le prophète m'a dit que c'est un garçon. Elle va oublier ce que le serviteur a dit, n'importe quoi qui se raconte. Le prophète, il m'a promis que ce sera un garçon. Et c'est un garçon, c'est un vrai prophète. Il racontait dans toute la ville, j'étais chez ce monsieur, je demandais garçon et fille, il m'a dit un garçon, et ça s'est réalisé. Voilà. Et elle a fait de la plus propagande pour lui. Elle et 500 personnes autres aussi. Qu'est-ce qui se passe maintenant si une fille, elle est née? Alors, si une fille est née, elle dit, aïe, le prophète m'a dit un garçon. Mais après le serviteur, il m'a dit, en vérité, ce sera une fille. En vérité, il m'a dit une fille. Donc quoi? Soit qu'elle va dire, le prophète le savait, soit elle va dire, bon, je raconte à personne. Bon, je raconte à personne, étant donné que le serviteur m'a dit, ce sera une fille. Donc, je ne raconte pas cette histoire. Donc, ça veut dire quoi? Quand le faux prophète, il dit une fausse promesse, ce qui est au double, il dit au pif, 50% de fois c'est vrai, 50% c'est faux. Mais le fait d'une manière que si c'est vrai, la personne va faire la propagande qu'il est prophète. Et si c'est faux, il y aura un silence. Les gens ne vont pas savoir. Ça veut dire les gens qui ne voient pas le futur, mais qui promettent le futur, s'ils ne sont pas prophètes, alors ils disent au pif. Et si ça se réalise, ils ont le prestige. Et si ça ne se réalise pas, il faut faire d'une sorte que les gens, ils oublient de parler. Les gens, ils n'aiment pas de parler mal, des gens qui sont connus. Lui, il dit, je suis prophète, je suis un tzaddik. Il y a des gens autour d'eux, des serviteurs qui disent, un tzaddik, qu'il connaît. Et si ça ne se réalise pas, les gens, ils se taisent. On les a préparés pour se taire. Oui, en vérité, le prophète a dit, mec, on a trouvé une excuse. Comme ça, les échecs n'en racontent pas, les réussites n'en racontent et les types reçoivent le prestige. Donc ça c'est pour gagner d'argent, pour gagner de l'honneur. Une fois que la perversion est rentrée, elle ne s'arrête pas là. Comme ça dit la Gemara, ça ne s'arrête pas à question de kavod et de l'argent, ça va plus loin. Une fois que l'homme il a le pouvoir sur les gens, il va aller plus loin. Il peut induire en adultère. Dieu m'a dit de faire des adultères. Et ce genre d'histoire, on a déjà entendu. Ces deux prophètes ne sont pas les premiers. Peut-être c'est lui des premiers, j'en sais rien. En tout cas, ce n'étaient pas les derniers. Dans chaque génération, il y a comme ça des clowns qui abusent après les pires des Averot. Ça peut être des Juifs, ça peut être des Goyim, ça peut être... C'est une histoire humaine. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de laisser... Des faux prophètes. C'est des pervers. Il ne faut pas laisser des pervers de jouer les gens saints. Ce n'est pas bon, ça. Amar Rav Tanchum. Rav Tanchum, il a dit. Darash Bar Kappara. Bar Kappara, il a dit. Betzipori. Maïd Echtiv. Qu'est-ce que c'est ce qui a marqué? Shesh Aseorim Haele Natanli. Si grain d'orge. Dig orge, il m'a donné. Alors, comment ça rentre ici? On verra plus tard dans la Gemara comment cette histoire y rentre ici. En tout cas, ici, on parle quelque chose qui est marqué dans la Megillah de Ruth. Ruth à Moavia, elle était donc la belle-fille de Naomi. Elle est allée chercher le Leket dans le champ de Boaz. Jusqu'à Naomi, elle a dit. Va lui proposer qu'il se marie avec toi, qu'il fait du mitzvah d'Iboum. Elle est partie là-bas, Boaz, il a dit, demain matin, on va régler cette affaire au Bedin, ou mon oncle va te marier, ou c'est moi qui te marie. Mais avant de partir à la maison, Boaz, il a dit, je ne voudrais pas que tu rentres avec les mains vides à la maison. Il a dit, amène-moi un mitpachat, amène-moi ta mouchoir, et je mettrai dedans quelque chose à manger. Il a donné chèche à Saorim, six orges. Alors, quand il est arrivé à la maison, elle a raconté ce qu'elle a raconté. Après, elle a dit, il m'a donné aussi un cadeau. Il a dit, il ne faut pas que je rentre seul à la maison. Il m'a donné 10 orges. Chèche à Saorim, à elle et Nathalie. Ces 6 orges, il m'a donné. La grand-mère pose la question, Maï, chèche à Saorim. Qu'est-ce que ça veut dire, 6 orges? Il est, mais si tu veux dire, chèche Saorim, mamash, 6 grains d'orge. Vri d'Argo chez Boaz, l'iten matana, chèche Saorim. C'est la coutume de donner 6 grains d'orge comme cadeau. Ouais, c'est une blague. On ne donne pas 6 grains d'orge cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire de donner 6 grains d'orge? Elle a chèche saïn. Il a donné chèche saïn. Alors, parce que dans une grange, il était dans la grange. Pour mesurer dans une grange, la mesure la plus petite, c'est un sa'a. Un sa'a, c'est combien? C'est 18 litres, 15 litres. Chèche saïn, 90 litres. Chèche saïn, le ridar que chez l'Isha l'itol chèche saïn. Comment? Il a donné 90 kilos de l'orge à route pour qu'elle transporte. Mais route ne va pas transporter 90 kilos. Elle a remez ramazla. En vérité, il s'agit de 6 grains d'orge. Mais ce n'était pas pour donner à manger, ce n'est pas parce qu'elle avait besoin de manger ces 6 graines. Remez ramazla, ces 6 graines étaient une allusion. Chatidin, shishabanim, la tset mimena. Que de route, elle aura dans sa descendance 6 garçons, shemit barchim, beshesh, shet, brachot. Que chacun de ces 6, il aura 6 bénédictions. Sera béni par 6 garçons, que chacun il aura 6 bénédictions. Ça veut dire les graines d'orge sont chargées avec une signification rouhani. Les prophètes, il y a beaucoup d'histoires dans le Chumash où on voit, comme le Ramban il dit, que les prophètes ils ont un immense pouvoir et ils font un geste à première vue tout simple et ça déclenche un immense pouvoir. Moshe Rabbeinu a levé le bâton, il a dit, mère, coupe-toi, et la mère se coupait. Paf, et la mère se coupait. Le geste, comme un homme, il lève un bâton pour frapper, et ben frappe la mère, et ça s'est coupé. Moshe Rabbeinu, il a pris dans sa main de la poudre d'une four, il a jeté alcool Eretz Mitzrayim, et ça a déclenché la maladie dans tous les pays d'Égypte. Il fait un geste comme il jette du poison et après, ça déclenche un miracle. Les prophètes, avec un geste qui est symbolique, il y a une histoire dans le Tanakh. On nous raconte qu'il y avait un roi juif. Il est venu chez Elisha Hanavi. Il a dit, le roi Goy en face de Damas, le Syrien, il me fait casser les pieds. Il nous fait des tzorot, j'en ai marre. Je voudrais gagner la guerre. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, Elisha, il a dit, tu as un arc? Oui. Ouvre la fenêtre et mets l'arc vis-à-vis de la Syrie. Et tire l'arc. Et le prophète, il a mis sa main sur la main du roi. Et le roi, il a tiré. Il a dit, tire encore. Il a pris une deuxième flèche, il tire une deuxième flèche. Il a tiré une troisième flèche et s'est arrêté. Alors le prophète, il a dit, dommage. Et tu t'es arrêté. Tu as tiré 3 flèches, tu vas gagner 3 batailles. Si tu m'aurais fait confiance plus, tu aurais tiré 5-6 flèches, tu aurais dû leur donner un coup, ça aurait été fini, plus il t'aurait embêté. Tu as tiré 3, tu aurais gagné 3. Mais après, malheureusement, ça ne continue pas. C'est-à-dire, la main du prophète, sur la main du roi, sur l'arc, où on tire une flèche, ça déclenche une bataille gagnée. Ça, c'est ce que la Ramban dit. On voit ça dans toute la Torah. C'est des simples gestes. Et plus que l'homme il est kadosh, les simples gestes sont chargés d'une signification. Alors ici, Boaz, Ruach HaKodesh Boaz, une grande personnalité, Boaz, c'est le chauffette. Il a donné 6 grains d'orge à Ruth. Là, je te donne un cadeau, 6 enfants de tzadikim, que chacun il aura 6 bénédictions. Alors, quels sont ces 6 tzadikim? L'Éloi, David Emeler, c'est l'arrière-petit-fils de Ruth. Il aura 6 bénédictions. Ou Mashiach aussi. Mashiach, ça vient de David. Daniel, il est aussi de cette famille. Hanania, Mishael Vazaria. C'est pour ça que l'Agma nous raconte ici, parce qu'on a commencé à parler de Hanania et Vazaria. Donc, eux aussi, ils ont ces 6 bénédictions. David, où on va? Quelles sont les 6 qualités de David? L'Ikhtiv, le Pasuk, il dit, Vayan, Echad, Menhanarim. Un des jeunes, il a dit. Il a dit à quel moment? Au moment que Shaoul, il a fait sa dépression. Quand l'Esprit de Dieu a quitté Shaoul, et il était triste. Donc, les gens, ils ont dit, il faut trouver un musicien qui chante. On avait déjà parlé de ça. Alors, il y en a un des jeunes de Shaoul, il a dit, Vayoma, Hinei Ra'iti Ben Le Yishai. J'ai vu un fils, à Yishai Betalach, Mikabita Betlechem, Yodea Nagen. Il sait jouer des mélodies, chanter. Ça, c'est la première des choses. Il sait chanter. Vigibo Chail est un homme très courageux, très costaud. Vigibo Chail. Vish Milchama, un homme de guerre. Ça fait déjà 3. Venavon Davar, c'est un homme intelligent. 4. Vish Toar, un homme de prestige. Toar, Menachon, lumière, un homme avec lumière. Vahashem Imo. Et Dieu est avec lui. Donc, il a 6 qualités. Rav Yehuda Amarav, il a dit, Kol ha-pasukaze, toutes ces 6 qualités, en vérité, il n'était pas obligé de parler tellement beaucoup. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait un homme qui savait chanter bien. Il suffit de dire, bien chanter. C'est ça que vous cherchez. Pourquoi il a ajouté toutes les qualités de David HaMelech? En vérité, ce qui a proposé, c'était Doeg HaAdomi. Et lui, c'est un pervers. Il était jaloux de David parce qu'il voulait massacrer David. Il ne supportait pas. Doeg était un grand chacham et David était un plus grand chacham. Et ça le vexait Doeg. Et Doeg, il voulait du mal à David. Donc, quand Shaoul, il a dit, quand les gens devant Shaoul, ils ont dit, on cherche quelqu'un qui peut le calmer, il a dit, je vais que David va devenir ce qui chante, mais je lui racontais toutes les qualités jusqu'à ce que Shaoul, il sera jaloux de lui, et ça donne un balagan, et peut-être Shaoul, après, à la fin, il va le tuer. C'est ça que Doeg cherche à provoquer. Kol ha-pasuk haze lo amro Doeg ele b'lashon hara. Tout ce verset, quand Doeg, il parlait, c'était la lashon hara, c'était pour faire du mal à David. Yodea Nagen. C'est quoi Yodea Nagen? Chi Yodea Lishol. Il ne s'agit pas seulement de chanter. Yodea Lishol, il sait poser des questions correctement. Gibor, il est costaud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est costaud et il est un homme de guerre. Mais qu'est-ce que tu me parles d'un homme de guerre maintenant? Qui a besoin maintenant d'un homme de guerre? Alors, le Tanakh, il faut savoir, le Tanakh, c'est un livre pas comme un autre livre, un livre unique. Le langage du Tanakh, c'est un langage unique. Ça veut dire quoi? Le Tanakh, c'est un livre des prophètes. Les prophètes, quand ils parlent, ils peuvent parler des choses terre à terre, comme ils peuvent parler des messages célestes, qui sont habillés avec des paroles simples. C'est pas comme un autre livre. Chez nous, quand on dit table, c'est une table. Quand un prophète parle le mot table, il peut penser à une table céleste. Alors, les personnes qui parlent dans le Tanakh, elles utilisent un langage codé que ceux qui connaissent le sens de ces personnes Il sait de quoi il parle.
Shaul HaMelech était le gadol adorant Torah.
Doeg aussi. Doeg, après, il travaillait au Mishkan. Il était le plus grand Tamid Chacham. Quand deux Chachamim parlent entre eux, ils parlent de la guerre. La guerre, pour eux, la guerre, c'est la guerre de Torah. Pour un homme de Torah, guerre, c'est la guerre de la Torah. David, il a fait des guerres vraiment aussi, évidemment. Quand il est parti chez les Pelishtim, et quand il est parti à Edom, Moab, il a fait la guerre, c'était la guerre avec l'épée. Oui, mais quand ils sont au Bet HaMidrash et ils font la guerre, c'est une guerre de Torah.
Alors, ici, le sens, il est
Gibor, il est costaud, Shiodea la Hashiv, il sait répondre au Bet HaMidrash. Ish Milchama, un homme de guerre, Shiodea Lisa Beliten Bimilchamta Shel Torah. Quand on discute très fort dans l'étude, la guerre de la Torah, c'est-à-dire on discute où est la vérité, eh ben, c'est un homme qui sait manipuler génialement les arguments. Ish Toar, un homme de Toar, Shemare Panim Bahalacha, qui peut expliquer la halacha logiquement. Menavon Davar, Shemevi Davar, Metoch Davar, il comprend une chose de l'autre chose. Vashem Imo, et Dieu est avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire Dieu est avec lui? Shalacha kemoto b'chol makom. Toujours quand il y a une discussion en Bet HaMidrash, l'alacha est toujours comme lui, toujours la chacham à la fin. Quand on vote toujours que lui il avait raison. Il y a plein de gens, des centaines de chachamim qui discutent. Chacun donne son avis. Après un vote, toujours David il sort gagnant. Dieu est avec lui. Bekulhu amar lehu chaque fois. Quand Doeg, il disait une louange sur David, Shaul, il dit, Yonatan beni kamoto. J'ai un fils qui s'appelle Yonatan, il est autant fort que lui. Shaul n'était pas encore jaloux. Doeg, il cherchait de parler des qualités de David pour provoquer chez Shaul la jalousie contre David. Mais ça ne marchait pas. Pour le moment, les premiers cinq, ça ne marchait pas. Il a dit, c'est un homme qui s'est posé des bonnes questions. Mon fils Jonathan, il est aussi racham, il sait aussi répondre, il sait aussi. Il sait faire le bon dispute dans la Torah très bien. Il comprend les choses merveilleuses. J'ai aussi un fils comme ça. Après, il a dit, mais la halakha, il est toujours comme David. Quand on voit toujours David, il sort gagnant. Kivan da amar leva shemimo. Quand Doeg, il a dit, Dieu est avec David. Milte de bididei namelo havebei. Ça, Shaul n'avait pas. Shaul aussi était un Tamid Chacham, aussi c'était grand. Et quand on lui dit, Jonathan, béni est comme moi, c'est Jonathan et moi aussi, je suis comme ça. Il a dit, Jonathan, et lui, David, Shaul aussi. Mais que l'Alacha est toujours comme lui, ça, Shaul n'avait pas. Et David, oui, Khalash Daate, là, il était déprimé. David, il est plus fort que lui. Et là, il est devenu jaloux. Là, ça commençait. La mauvaise relation que Shaul avec David. Ça, comme avant qu'il se marie, avant que David se marie avec la fille de Shaul, avant que David il a tué le Goliath, tout de suite au début, la première fois qu'on a amené David, avant qu'on a amené David comme chanteur Shaul, déjà Shaul, il avait un don contre David. Chaque fois quand il discutait, Yarshia, il a perdu, la discussion a perdu. Au Bet HaMidrash, dans l'étude, Shaul était un gadol ador, mais le Chacham n'était pas d'accord avec son avis. Et avec David, oui. Au Bet David, c'est marqué, Bechol HaShayif Neyatzliyach. Partout où il discutait, il a réussi. Minalan, d'où on sait que Doeg avait, que cette personne était Doeg. La personne qui parle devant Shaul, il s'agit de Doeg. Ktiv hacha, ici le marqué Vayan, Echad men hanarim. Il a répondu Echad men hanarim. Pourquoi on dit le mot Echad? Vayan men hanarim. Pourquoi Echad? Un. Miyuchad sheben harim, le plus fort. C'est le plus fort des jeunes de Shaul. Ktiv hatam. Et là-bas, il marquait plus loin, Besham Ish me Avde Shaul, Beyomahu, Netzar Lifne Hashem, Ushmo Doeg Adomi, Abir Hagoim, Asher le Shaul. C'est quoi? Sham, où c'est Sham? Ça, c'est beaucoup plus tard.
quand c'était déjà bien embrouillé entre David et Shaoul, quand Shaoul a déjà officiellement voulu tuer David. Il a allé la chasse et David s'est sauvé. Et David, il s'est sauvé et il n'avait pas quoi manger. Il est parti dans la ville Nov. Il est parti au Mishkan où il avait Achimelech, le Kohen Gadol. Et il a dit, Monsieur Kohen Gadol, je crève de faim. Tu as quelque chose à me donner à manger? Alors Achimelech lui dit, mais tu es le gendre du roi. Pourquoi tu viens tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi tu n'as rien à manger? Il a dit, le roi m'a envoyé pour une mission secrète de militaire et je devais agir vite. Donc je suis parti seul et j'ai pas amené quoi à manger. Maintenant j'ai très faim. Tu peux me donner à manger? Il a dit, je n'ai pas à manger que le lechem aponim. Lechem aponim, on mange le Shabbat et qu'un Kohen, tu n'es pas Kohen. Il a dit, j'ai en train de mourir de faim. Si tu ne me donnes pas, je peux mourir de faim. Alors il a dit, je vais consulter l'Urim et Thummim. Il a consulté l'Urim et Thummim, il dit, donne-lui le pain. Il a donné le pain. Après, David, il a dit, j'ai même pas pris une arme. Tu n'as pas une arme ici. Il a dit, j'ai une épée, l'épée de Goliath, que tu as pris de Goliath. On l'avait posée dans le Mishkan. Si tu veux, je te le donne. Il a dit, donne-moi. Il a donné donc l'épée. Il a donné à manger. Et David, il est parti pour se sauver. Et là-bas, il y avait quelqu'un présent, Doeg. Il a vu cette scène. Doeg, jour et nuit, était au Mishkan en train d'étudier. Il a vu cette scène. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Shaoul. Il a raconté à Shaoul, j'ai vu que David, ton gendre, comment il est venu, et le roi, le Kohen Gadol lui a donné à manger, il a consulté le Urim et Thummim, et Shaoul, il a entendu ça, Shaoul, il est parti chez Achimelech, il a dit, c'est vrai que tu as vu David? Oui. C'est vrai que tu lui as donné du pain, l'Echam Apanim? Oui. C'est vrai que tu as consulté le Urim et Thummim? Oui. Et comment tu fais une chose comme ça? Alors, tu nourris mon ennemi? Il dit, votre ennemi? Je ne comprends pas. C'est votre gendre. C'est le meilleur du militaire. Vous l'aimez. Et Shaoul lui dit, tu ne sais pas que c'est, il veut me tuer? Tu ne sais pas qu'il y a un embrouillade entre nous? Achimelech est tombé des nues. Il n'était pas au courant de rien du tout. Il dit, moi, je ne savais pas, monsieur le roi. Je croyais que tout... Et tu as consulté de Urim et Thummim? Mais on considère Urim et Thummim qu'un roi. Ça veut dire, tu es sous la couverture. Tu le considères lui comme roi. Alors, il a dit, tu mérites la mort parce que tu es avec mon ennemi. Alors, il dit à ses élèves, tu es Achimelech, personne n'a levé le bras. On ne peut pas tuer un Kohen Gadol, Tzadik, on n'a pas le droit de le tuer. Alors, Shaoul, il a dit, Doeg, c'est toi qui as raconté la chose, c'est à toi de régler l'affaire. Donc, Doeg, il a tué Achimelech et les 85 Kohanim. En tout cas, là-bas, le texte, il dit, « Voyan echet menarim », il a dit un des jeunes, « Vesham, prochain victime, attends, Vesham ish me'av de Shaoul », là-bas, à Nov, dans le Mishkan, il y avait un homme parmi les serviteurs de Shaoul, « Bayom osejour, netzar lifne Hashem », qui était consacré pour Dieu, jour et nuit, « Ushmo », il s'appelait « Doeg ha'adumi »,« Abir ha'roim asher la Shaoul », le meilleur des bergers de Shaoul, c'est-à-dire le meilleur des élèves de Chachamim de la groupe de Shaoul. Donc lui, c'est le meilleur. Et avant, Echad Minanarim. Donc ce Doeg, depuis le début jusqu'à la fin, il était l'ennemi de David. Quand David, avant que David y rencontre la première fois Shaoul pour devenir chanteur dans son palais, déjà Doeg, il a essayé de provoquer chez Shaoul les jaloux contre lui. Et à la fin, c'est lui qui a chassé carrément de Shaoul contre David, contre Achimelech, etc. Donc, David, il a donc 6 qualités. On avait dit, ils vont sortir 6 personnes avec 6 qualités. Donc, David, il a les 6 qualités qu'on vient de dire. Mashiach. Mashiach sortira aussi des Ruth, des Boaz. Et il a aussi 6 qualités. D'Echtiv Karondi, c'est dans l'Aftara du 8e jour de Pessah, bien connu. Il va résider sur lui l'Esprit de Dieu. Ça, on traduit en français, on a toutes les langues du monde. Il va résider sur Mashiach l'Esprit de Dieu. Ruach Chochma, Ubina, un esprit de sagesse, ou bina et de compréhension, ruach eitza, de conseil, ou gura de puissance, ruach daat, virat Hashem, et de crainte de Dieu, octive et le marqué, veericho, beirat Hashem, et il va sentir grâce à la crainte de Dieu. Alors, il y a plusieurs pshatim veericho. Amar Rabbi Alexandre, Rabbi Alexandre l'a traduit, Malamet shehit ino mitzvot veisurim kerechayim. Que Dieu va charger Mashiach, mais avec mitzvot, avec beaucoup de mitzvot, il a une immense mission à faire, veisurim et des souffrances, kerechayim comme un moulin. Un moulin, c'est le symbole dans la Gemara d'un travail très fatigant. On a le moulin à l'époque de la Gemara, on a une grosse pierre et on a une moins grosse pierre. Et entre les deux, on met le blé. Et après, il y a quelqu'un qui commence à prendre la grosse pierre en haut et il tourne la pierre. Il tourne la pierre en haut, il tourne en rond sur la pierre en bas. Et le blé qui est entre les deux, il s'écrase et ça devient de la farine. Comme ça, c'était le Rechaim à l'époque de la Gemara. Et c'est le symbole d'un poids lourd qu'il faut tourner pour faire sortir l'aliment. Alors, Mashiach, il doit avoir un immense travail, une grande souffrance pour changer le monde. Alors donc, il y a ici six qualités de Mashiach. Venach alav, ruach Hashem, l'Esprit de Dieu. Ruach chokhma, ou bina, eitza, ou gvura, dat virat Hashem, et richo birat Hashem. Il y a six degrés, il y a six qualités que Mashiach il aura. Donc, d'après ce pshat, ve'hi'richo, ça veut dire une charge comme rechaim, comme un moulin. Rav Amar de Morach Vedain. Il peut sentir et juger. Alors, la traduction littérale veut dire il sent et il juge. C'est-à-dire quoi? Deux personnes viennent devant lui. Un le tzadik et un le racha. Et ils se disputent. Et le juge doit savoir qui a raison, qui a tort. Qu'est-ce qui fait un juge normal? Il apporte des témoins, invite les témoins. Et les témoins, ils parlent. Ou des contre-témoins, ils posent des questions. Et à la fin, après la discussion, il se fait une idée, le juge. Lui ment, lui dit la vérité. Mais sur Mashiach, il est marqué, l'eau le marée et il n'a vishpot. Il n'a pas besoin de voir avec ses yeux pour juger. Il n'a pas besoin, l'oishma ozen, il n'a pas besoin d'écouter les témoignages. Il peut sentir, littéralement, ça veut dire, il met son nez à côté d'un, il met son nez à côté de l'autre, ah, toi tu mens et toi tu dis la vérité. Il peut sentir qui dit la vérité et qui dit faux. Ça, c'est le littéral. Et le sens, il est de la même façon que les yeux sont des organes très forts, dont on voit la chose. L'oreille, il entend, mais l'odorat, c'est très fin. Alors, un juge, normalement, il a besoin des fortes preuves, mais lui, très fin. Il a une compréhension très fine, et avec, comme si on sent, il sent qu'il dit la vérité. Un homme, il commence à ouvrir la bouche, il voit déjà qu'il ment. C'est là, comme il ouvre la bouche, comme il tourne la tête, comme il tourne le truc, celui-là, il va me raconter une histoire à dormir debout. L'autre, quand il parle, lui dit la vérité avec sentir. Et Mashiach, il jugera le monde et on ne pourra pas lui raconter des balivernes avec tous les menteurs et tous les manipulateurs de la justice. Ils ne peuvent pas tromper Mashiach. Mashiach, tout de suite, il sait qu'il dit vrai et qu'il dit faux. À demain, Be'ezrat Hashem.